Bonjour, nous sommes le lundi 25 mars, il est 14h, vous écoutez Radio Campus Paris et à Marmande dans le Lot-et-Garonne aussi, c'est l'heure de la relève.
Je voudrais être footballeur professionnel, styliste,
pilote d'avion de chasse pour m'engager dans l'armée et défendre la population et tout ça.
Je voudrais devenir peintre, chef cuisinier, chef de commerce, biologiste.
La relève sur Radio Campus Paris.
Bonjour et bienvenue aujourd'hui La Relève, toujours avide de nouvelles idées et d'aventures, reçoit un invité que Voltaire ou Épicure n'auraient pas renié. Les deux philosophes estimant que cultiver son jardin était une étape importante pour mener une vie sage. Alors, merci Raymond. Bonjour Hugo Meunier, c'est bien vous ?
Bonjour, c'est moi-même.
Là, comme les invités s'enchaînent parfois, on ne sait plus. Vous êtes le fondateur avec Antoine Baume et le dirigeant donc de Merci Raymond. Je n'ai pas dit Merci Raymond par hasard.
Exactement, merci Raymond. Raymond, qui est mon grand-père dans le sud-ouest de la France.
Ah, c'était pas je me suis trompé, c'est pas le Lot-et-Garonne, c'est le Tarn-et-Garonne, c'est donc plutôt Toulouse, j'ai peur de dire une bêtise.
C'est à la frontière entre le Lot-et-Garonne et le Tarn-et-Garonne, donc on n'est pas très loin.
Super nul en géographie.
On n'est pas loin du tout.
D'accord. Alors comment est née chez vous l'idée de vous intéresser à l'agriculture urbaine ?
Alors c'est une passion, j'ai grandi à la campagne, j'ai eu les mains dans la terre et effectivement comme beaucoup de personnes ayant grandi à la campagne et qui sont arrivées dans les villes, j'ai ressenti ce manque de nature et ce manque de nature a fait créer une certaine frustration qui m'a lancé dans mon projet entrepreneurial de Merci Raymond.
Vous aimez la terre, vous auriez pu en faire un hobby, vous avez fait des études, j'ai vu, vous êtes passé par la Sorbonne, Dauphine. Pourquoi faire une start-up d'agriculture urbaine plutôt que, je ne sais pas moi, une service dans le cloud ?
Alors c'est une très bonne question, c'est quelque chose qui est venu par petit à petit, c'est-à-dire que je n'ai pas décidé un matin de me dire ça va être l'agriculture urbaine, c'est plus une sensibilité, la sensibilité environnementale également, l'envie de s'impliquer dans cette cause que je trouve très noble et qui aujourd'hui il y a énormément à faire sur ces sujets-là. Effectivement à une époque j'avais travaillé sur les questions du numérique et je me rendais compte que...
Vous avez été rapporteur du Conseil national du numérique ?
Exactement, à l'époque de Benoît Tulin, Marie Eklande et donc de nombreux membres, dont Bernard Stiegler, qui était un grand philosophe sur toutes les questions du droit du travail à l'ère du numérique.
Qui est toujours,
qui n'est plus philosophe. Membre du Conseil national du numérique.
Mais philosophe.
Effectivement, toujours philosophe, bien sûr.
Il fait peur.
Et de me rendre compte qu'il y avait énormément de choses qui avaient été faites dans le secteur du numérique, mais peut-être un peu moins aussi sur les notions environnementales et donc aussi de jardinage et d'agriculture urbaine. Petit à petit est née l'envie de m'investir, moi, à ma propre échelle, sur ces sujets-là. Donc c'est né au fil du temps.
C'est la rencontre aussi avec votre associé ?
La rencontre avec mon associé a été quelques mois plus tard, c'est-à-dire que tout projet entrepreneurial nécessite une certaine impulsion que j'ai donnée et j'ai eu envie de m'investir au départ et très rapidement, heureusement qu'Antoine m'a rejoint parce que tout seul, c'est très compliqué de monter une entreprise.
Qu'est-ce qui est compliqué ?
Ce qui est compliqué, c'est que... Alors, c'est un tout. Monter une boîte, c'est des rencontres, c'est des convictions, c'est beaucoup de temps, d'énergie et aussi, il faut avoir aussi, on va dire, les reins solides. Moi, j'avais la chance, mine de rien, d'être relativement très jeune, je le suis toujours, mais de sortir d'études, ça m'a beaucoup aidé parce que on va dire que venant du sud-ouest de la France, n'ayant pas forcément mes parents à Paris, pour être hébergé, pour manger, toutes ces questions-là se posent vraiment.
Ouais.
Et donc, ça a été dans la continuité de ma vie étudiante, on va dire, de manger des pâtes. J'ai accepté une année de plus de galérer un petit peu. Et aujourd'hui, je suis très content parce qu'on a une aventure qui fonctionne bien et qui est en très, très grande dynamique telle qu'on l'a.
Ça veut dire aussi que dans les moments de doute, c'est mieux d'être deux parce qu'il y en a, on doute rarement ensemble et que l'autre peut vous épauler, que seul, c'est plus compliqué.
Ça aide beaucoup. 2, 3, 5, 10, parce que effectivement, c'est pas simplement qu'à deux, c'est aussi avec les gens qui croient au projet, qui peuvent te mettre en relation avec un tel ou un tel. Et tout ça, mine de rien, fait qu'à la fin, il y a ma tante qui me disait « pas de bon vent pour les marins qui n'ont pas de bord ». Et donc, en fait, effectivement, c'est important d'avoir un cap, d'avoir une direction. Et de là, alors
La phrase de votre tante me fait parler à une, penser à une phrase de philosophe et je ne sais plus qui c'est.
C'est Sénèque.
Oui, c'est ça. Exactement. Il n'y a pas de bon vent pour les marins qui n'ont pas de...
De port ou de bord, ça marche
votre
aussi.
Votre tante a bonne lecture. Donc.
Voilà.
Et justement, puisque vous parlez de votre famille, je voulais justement vous poser une question. Parce que moi, au début, quand j'ai vu votre parcours, j'étais un peu surpris. Je me suis dit, mais tu es vieux, c'est normal, tu ne comprends plus la jeunesse. C'est comme ça, le temps passe. Mais il y a 20 ans, votre parcours, à mon avis, était marginal, ou en tout cas très difficilement imaginable. Alors, j'avais envie de vous demander, quand vous avez vous dit à vos proches, je vais me lancer dans l'agriculture urbaine, à vos parents, à vos amis, comment les gens ont réagi? Ils sont mis, alors, ils étaient passés de l'autre côté, ça y est.
En plus, au début, c'était même pas l'agriculture urbaine, c'était vraiment le jardinage. Donc, encore quelque chose qui était de l'ordre du loisir, qu'ils n'ont pas forcément compris. Et effectivement, avec des études de droit, donc j'ai fait 3 Master 2 à la Sorbonne, à Dauphine et à Assas, le gap a été assez important.
Ouais, parce qu'il y a quand même une image de métier.
Il y a
manuel.
Une image du métier. Et donc, en fait, rapidement, l'enjeu aussi, ça a été cette conviction-là de se dire, on va essayer de valoriser cette image du jardinier et j'ai pris beaucoup pour exemple l'image du cuisinier, c'est-à-dire que dans les années 2000 le cuisinier n'était pas forcément starifié tel qu'il l'est aujourd'hui, il y a eu toutes ces émissions Top Chef et autres évidemment, qui ont énormément contribué à tout ça et moi j'étais persuadé que c'était le jardinier le futur métier un peu
trendy.
Exactement. Donc j'ai travaillé sur cette notion de communauté, d'image, donc il a fallu donc une collection aussi de vêtements, c'était assez rigolo, des capsules qui ont été vendues pendant la COP21, donc c'était des collections militantes distribuées chez Colette au bon marché, donc aussi j'avais envie de toucher un certain public très parisien, très branché, ça a fonctionné avec une certaine identité, une direction artistique. Et pour la petite histoire, il y a une semaine j'ai vu un article des Échos qui montrait agriculteur urbain, le nouveau job hype. Et donc, comme quoi, il y a 3-4 ans, j'avais anticipé un peu ces sujets-là. Donc
mais ça rassurait quand même vos parents, parce que vos parents, je sais pas, ils vont peut-être pas chez Colette tous les jours.
Non, alors eux, ça les a pas rassurés. Forcément, ça a été assez long pour qu'ils me disent, mais Hugo, bon, c'est super ton projet, on t'encourage, mais il y a un moment, il faudrait peut-être que tu réfléchisses à quelque chose d'un peu plus concret.
Tu pourrais peut-être prendre quelques clients à côté.
Voilà, ou même, voilà, tu sais, t'as fait des superbes études, tu veux pas passer un concours, tu veux pas faire ci, faire ça. J'ai dit oui, alors attendez au moins jusqu'à avril, et puis arrivé avril, je disais, attendez jusqu'à septembre, et en fait, petit à petit, voilà.
Ma réaction est sûrement au fait que la France est très en retard dans ce domaine. Quand on va à Berlin, moi je suis allé récemment à Hambourg, on ne parle même pas de New York et de la Brooklyn Grange, tout de suite il y a une différence, enfin, je ne sais pas bien dire Brooklyn Grange.
Exactement, c'est ça.
On voit tout de suite la différence. Vous avez une idée de pourquoi la France est en retard dans ce domaine-là?
Alors aujourd'hui, la France, particulièrement Paris, Paris est une des villes les moins vertes au monde. Il y a une dernière étude du MIT qui montre que 7% des espaces verts sont des espaces verts, là où Londres en a 12% et Montréal 25%. Donc il y a encore énormément de choses à faire, même si les mairies s'activent là-dedans. Il y a un énorme retard parce qu'aussi l'agriculture française est très ancrée, très rurale.
C'est ce que je me suis demandé, si paradoxalement la puissance de l'agriculture urbaine, l'agriculture traditionnelle. Rurale, traditionnelle était telle que dans les villes on n'avait jamais pensé qu'il fallait faire quelque chose.
Et surtout ça a été très rapidement pris comme quelque chose de dérisoire, voire un peu ridiculisé. Et en fait aujourd'hui la tendance est plutôt à l'inverse, c'est-à-dire que c'est intéressant d'observer que finalement aujourd'hui l'agriculture traditionnelle bénéficie d'une mauvaise image,
est assez
mal soutenue par les médias, par tous les secteurs économiques, et donc finalement l'agriculture urbaine, il y en a certains qui voient la mission de l'agriculture urbaine comme une moyen de revaloriser la profession de l'agriculteur parce qu'elle est ultra mise en avant. Aujourd'hui on parle de métier hype, etc., mais il ne faut pas oublier qu'il y a un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours dans la France, donc c'est quand même des sujets qui sont très compliqués.
Moi j'avais une hypothèse, c'est un peu une blague, mais vous allez me dire, peut-être que ce n'en est pas une. Est-ce que c'est pas tout simplement parce qu'à Paris les toits ne sont pas plats par rapport à New York? Ils ont des grands toits plats, à Paris on n'a pas ça.
Alors heureusement on arrive à en trouver des toits plats, mais effectivement avec Haussmann qui a eu une envie de construire des toits en zinc et tel que était l'urbanisme parisien. Après aujourd'hui Paris, il y a Paris, il y a aussi le Grand Paris, mais il y a aussi des grandes villes comme Toulouse, Lyon, Marseille, Bordeaux, et aujourd'hui c'est en train d'arriver cette vague verte dans ces espaces-là.
Et ces villes-là sont aussi en retard que Paris?
Alors je parlerai pas forcément de retard, effectivement Paris est en retard, mais il y a des villes comme Strasbourg qui sont extrêmement en avance, la ville comme Angers, donc en fait on a c'est assez relatif. Il y a aussi tout un enjeu, c'est finalement les rues, les espaces des rues sont absolument pas cultivés, pas utilisés par les urbains. Aujourd'hui il y a toute une question de se réapproprier son espace public et du coup à venir faire son potager dans la rue. Et on parlait de mentalité tout à l'heure, mais Aujourd'hui, les personnes ne sont pas sensibles à ça, elles ne sont pas habituées. Aujourd'hui, on a toujours l'image de ce chien qui va aller faire pipi sur le pied d'arbre. Il y a toute une éducation à travailler et un respect aussi. Et c'est vrai que quand on regarde des villes au Japon ou même à Londres, il y a peut-être plus de respect des espaces publics, des espaces partagés que ce qu'il y a en France.
Comment vous les définiriez, l'agriculture urbaine, du coup ? Parce qu'on en parle, mais c'est quoi finalement ? Est-ce que si moi j'ai deux pieds de tomates sur mon balcon, c'est l'agriculture urbaine ?
C'est une forme d'agriculture urbaine. La question, c'est l'objectif de cette agriculture urbaine. Et son objectif aujourd'hui, elle n'est pas forcément productive, elle est essentiellement pédagogique. Et aussi, elle est un petit peu productive quand même, il faut le noter. Aujourd'hui, il y a des moyens qui sont divers pour produire en ville. Donc on a des moyens plus intensifs, typiquement sous LED ou sous serre, qui vont produire plus ou avec des rendements verticales. Typiquement, on peut faire de l'agriculture verticale qui permet d'optimiser les surfaces. Maintenant, sur son balcon, ça reste quand même plutôt de l'ordre du potager, du loisir, mais on peut parler d'agriculture.
C'est-à-dire que le mur végétal, qui était essentiellement quelque chose de décoratif, ça devient aujourd'hui quelque chose de productif.
Exactement, on s'adapte en fait aux surfaces en ville, surfaces disponibles, et on se rend compte que aussi il y a des toits. On parlait tout à l'heure des toits qui sont plats, mais il y a aussi une question de portance. Aujourd'hui, faire pousser, mettre de la terre, c'est très lourd, avec notamment la pluie, ça pèse encore plus. Donc pour pouvoir faire pousser des légumes sur des toits ou en ville, on s'adapte aux surfaces. Et là, on ne va pas rentrer trop dans le technique, mais verticalement, ça permet de multiplier par 4 ou par 8 en moyenne le nombre de surfaces cultivables.
Ça veut dire que vous, j'ai lu qu'à votre siège social, vous avez sur les toits un jardin que vous cultivez.
On a notre potager.
C'est
un grand mot quand même.
Là, vous avez vos bureaux.
On reste quand même à une petite échelle. Hein, on a donc voilà dans nos petits bureaux, on va dire. On a.
Vous exploitez le toit.
On a une chance exactement d'avoir un toit de 350 mètres carrés, donc qui est à l'antenne, qui est le lieu dans lequel
dans
on
le
est.
Dans le 11e arrondissement.
Dans le 11e arrondissement.
On peut le visiter ou pas ce...
Alors, venir, c'est, pas il faut nous envoyer un petit message. On le fait visiter. Ça peut arriver, mais ça dépend effectivement du nombre de personnes parce que c'est des toits techniques. Donc, qui demande un accès.
Et donc, vous avez quoi des jardins, comme le potager de votre grand-père ou ça n'a rien à voir ?
Ah, ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, ça fait écho à ce potager-là qu'on peut retrouver en pleine terre. Parce que malheureusement, aujourd'hui, les sols dans les villes sont pour essentiellement très pollués. Et donc, on est obligé de faire du hors-sol ou rajouter de la terre. Donc là, aujourd'hui, on est sur du hors-sol, c'est-à-dire dans des bacs avec du terreau qui a été amené d'autres endroits que de Paris.
Alors, quand j'ai un peu parlé du fait que j'allais vous recevoir autour de moi, on m'a dit quelle idée de faire pousser des légumes en ville, qui va manger ça ? C'est pollué, c'est dégueulasse. C'est vrai ou pas ?
Alors, c'est vrai.
Il va y avoir les voitures, tout ça. C'est
vrai.
Pas bon.
Alors, il y a de nombreuses études qui montrent aujourd'hui qu'à partir d'un certain nombre d'étages, on est moins exposé à la pollution. Donc, je crois que l'étude qui montre que c'est au troisième étage. Après, effectivement, faire pousser des légumes en pleine rue, là, on est direct.
Non, moi, je parlais de votre toit. Je parlais de votre toit, typiquement.
Alors, notre toit.
Celui de la rotonde, parce que je sais aussi que vous avez.
Exactement, on a un toit potager sur la rotonde.
À Stalingrad.
À Stalingrad, exactement. Donc, vraiment la visible du métro. Donc, c'est intéressant parce que ça permet aussi de voir de la nature et des légumes en quotidien, mais il y a quand même des règles à respecter, c'est-à-dire qu'après des pluies, suite à des pics de pollution, c'est pas conseillé de récolter ces légumes parce qu'à ce moment-là, ils vont contenir toute la pollution et les particules fines qui ont été déversées. Nous, aujourd'hui, on utilise des capteurs qui permettent en fait finalement de connecter le potager et d'avoir un certain nombre de données, donc de la data, et qui nous informent sur est-ce que l'air est pollué, est-ce que l'air a un certain nombre de particules fines, et est-ce que c'est bon de les récolter à ce moment-là ou non.
Donc, vous garantissez que les légumes que vous récoltez sont bons ?
Nous, on les trouve très bons et d'ailleurs, ils ont un meilleur
goût
meilleur goût que la fraise qui a poussé en Espagne et qui était verte, bien sûr.
I didn't plan to stay long. I didn't plan to stay long, I didn't plan to stay long. In the snake is so long, I've got posters up. Been defending so long, I don't know how to stop.
C'était Telzem, du toujours aussi inspiré James Blake. Son nouvel album est tout aussi recommandable et il s'appelle Assume Form.
La relève, tous les lundis à 14h sur Radio Campus Paris.
On est toujours sur Radio Campus, on est toujours avec Hugo Meunier, le fondateur de Merci Raymond. Vous nous expliquiez juste avant que les légumes que vous consommiez, notamment que vous produisiez pardon, sur les toits, étaient tout à fait consommables grâce à beaucoup de technologies. Un des intérêts de cette formule, c'est quoi? C'est le circuit court. Est-ce qu'on peut produire en masse d'abord? Est-ce qu'on remplace combien d'importations? Ce n'est pas le bon mot, mais de...
Alors, il y a des chiffres qui expliquent qu'à terme, l'agriculture urbaine pourrait remplacer entre 5 à 10 % de la production et alimenter du coup les villes à entre 5 et 10 % des espaces.
Donc là, on limite quoi? Du transport.
C'est ça, transport. On a aussi du goût qui est bien plus développé. Aujourd'hui, on n'a plus du tout de goût quand on mange une tomate qu'on a achetée dans un supermarché de grande distribution. Malheureusement, elle est cultivée verte et elle n'a plus du tout de goût. Donc, on est obligé de l'assaisonner, donc mettre des sauces. Et donc, forcément, elle est plus calorique. Alors qu'une bonne tomate, par définition, n'a absolument pas besoin d'être assaisonnée.
J'ai l'impression d'être avec Jean-Pierre Coff, bien sûr. Je ne sais pas si vous savez qui c'est. Mais si vous êtes jeune, vous le connaissez.
Oui, de nom. Et puis, effectivement, j'ai déjà connu ses chroniques. Mais c'est un vrai sujet, en fait, de l'agriculture urbaine. Et c'est là où il est intéressant.
C'est retrouver aussi
comme...
le coup avec l'agriculture urbaine, alors qu'on pourrait imaginer. C'est pas évident.
Retrouver le goût, retrouver aussi la terre, retrouver la patience. C'est énormément de bienfaits en fait, qu'on ne soupçonne pas, mais qui permettent de répondre à tous ces mots urbains. Aujourd'hui, nous, on se rend compte qu'on fait beaucoup d'actions aussi de liens sociaux. Aujourd'hui, l'agriculture urbaine répond à ces besoins-là et permet de connecter finalement des personnes entre elles, que ce soit au travail, on a des gens qui vont pouvoir se parler, se rencontrer, échanger. Aujourd'hui, avec l'outil des réseaux sociaux, avec l'outil du téléphone, même si je ne suis pas anti ça, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un moyen de déconnecter, de se recentrer sur des choses concrètes.
Alors normalement, si tout s'était passé comme si j'avais prévu, mais tout ne s'est pas passé comme j'ai prévu, je vais vous faire écouter une chanson. Alors, je ne sais pas si vous la connaissez. Vous connaissez la chanson de Jacques Dutronc sur le petit jardin?
Ah non,
c'est très bien. Écoutez, je vous enverrai le lien. Je vous enverrai le lien YouTube.
Avec grand plaisir.
Les auditeurs, on le retrouvera sur la page le jour où je mettrai la page à jour. C'est très rigolo parce que c'est une chanson qui date de 71 et Jacques Dutronc pleure la fermeture d'un petit jardin de quartier pour la construction d'un parking. C'est une chanson qui date des années 70. Et je trouve que votre démarche est exactement l'inverse de cette chanson-là.
Étonnant, ouais, ouais. Ça nous arrive souvent de décrire justement ces années 70-80 qui ont fait le choix du béton et du bitume.
Ah bah c'est clairement ça, c'est le petit jardin qui sentait bon le romarin. Et un méchant promoteur arrive et le petit jardin est détruit pour construire...
aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Les promoteurs sont gentils puisqu'ils cherchent justement à végétaliser des espaces.
On vient nous chercher au contraire aujourd'hui.
Exactement, on vient nous chercher et ce qui est intéressant, c'est même on vient nous chercher en amont. C'est-à-dire qu'on ne vient pas nous appeler pour simplement... on vient nous chercher dès la conception pour penser à un bâtiment tel qui pourrait servir à des besoins de nature dans la ville.
Vous avez plusieurs projets de ce que j'ai lu, ou si j'ai bien compris, la production est faite pour un restaurant qui est quasiment sur place. C'est du producteur au consommateur, ça c'est... Une démarche que vous voulez privilégier.
C'est une démarche qu'on veut prioriser. Alors aujourd'hui, simplement utiliser que des produits du restaurant, du toit ne suffira pas. Maintenant, on aura une bonne partie de la production qui ira directement dans le restaurant. Et après, on connecte ça avec des producteurs du bassin Île-de-France pour beaucoup. Et si on ne peut pas trouver, on ira peut-être dans le Perche ou en Normandie pour compléter tous ces besoins-là.
Je ne sais pas si vous êtes un lecteur, mais est-ce que vous avez lu le dernier Houellebecq et sa description apocalyptique du monde paysan ?
Je ne l'ai pas lu, mais j'en ai entendu parler pour beaucoup. Et notamment, je sais qu'il parle de la Meuse. J'ai cru comprendre que...
Peut-être aussi, mais... Moi, dans mon souvenir, c'est la Normandie, mais peut-être
Normandie,
je me trompe.
Normandie, en tout cas...
On peut parler de la Meuse, c'est joli aussi.
D'accord, il me semblait que c'était un de la Meuse, mais
parce
effectivement...
Il y a beaucoup d'élevage et c'est la situation
l'élevage
des
est très compliquée, exactement. Les éleveurs, alors moi, je ne maîtrise pas trop tout ce qui est l'élevage animal, mais effectivement, j'ai cru comprendre que c'était une situation assez compliquée.
La situation du monde paysan, c'est quelque chose qui vous intéresse ? Vous en parliez tout
à l'heure. Oui, j'ai beaucoup d'amis, en fait, c'est assez marrant, qui récupèrent les fermes des parents, qui redescendent, en fait, donc, que ce soit en Aveyron ou même dans des autres territoires agricoles, et qui expliquent qu'effectivement, c'est une charge. Il y a une pression aussi familiale de récupérer la ferme qui a été toujours transmise de père en fils. Maintenant, ils ont envie aussi d'aller sur une certaine forme de transition, parce qu'aujourd'hui, l'agriculture est en transition avec plus de circuits courts, plus de conscience aussi dans la production, donc plus le bio. Et j'ai une cousine là qui vient de récupérer une ferme à côté de Montpellier, et la force de sa ferme, c'est qu'elle est directement connectée avec le marché des arceaux dans Montpellier, et donc toute la production qu'elle fait la semaine est vendue directement aux consommateurs. Et donc c'est là où il y a une vraie valeur ajoutée, et c'est là aussi où elle peut s'en sortir et faire son marché.
Et vous-même, vous cultivez la terre ? Vous en parlez beaucoup, vous aimez prendre la bêche, aller dans le jardin.
Oui, ça m'arrive. Après, malheureusement, à Paris, c'est des espaces où on manque de terre. Donc, le plein terre est assez rare, mais quand j'ai l'occasion, je le fais au maximum, bien sûr.
Ça vous amuse pas d'aller le faire sur le toit ?
Je le fais, on le fait, bien sûr, oui, c'est un plaisir
non, c'est
quotidien. Ça fait partie de mon travail au quotidien. Ça a été le choix aussi de mon changement de parcours d'aller sur ces sujets-là, parce que j'ai l'occasion au quotidien de faire ça.
Sur des choses comme ça, on se dit que finalement, on voulait changer le monde. Pourquoi faire une start-up plutôt qu'aller faire de la politique ?
C'est une forme de combat politique, hein, la start-up. Aujourd'hui, c'est finalement créer des communautés, créer un mouvement, essayer de valoriser aussi des messages. Et celui que je porte, celui qu'on porte avec les équipes, c'est des messages qui sont universels. Et c'est là aussi la force, c'est qu'aujourd'hui, on a la chance d'être dans un secteur où, quels que soient les messages qu'on cherche à pousser, personne ne nous dira « Ah non, là, Hugo, t'es vraiment en train de te tromper. » Je ne suis pas en train de vendre des aspirateurs à la ménagère. J'essaie d'expliquer qu'il faut plus de nature et se reconnecter à cette nature-là.
En fait, vous faites finalement ce que Gandhi disait, je ne sais pas, il y a beaucoup de grands noms, mais c'est pas grave, qui disait soit le changement que tu veux voir dans le monde, c'est un peu ça, votre démarche.
Et oui, c'est ça, à son échelle, exactement. C'est possible, ça marche, et ça marche, mais surtout à plusieurs. C'est ça qui est important, c'est tout seul, on n'y arrivera pas.
Dans tout à l'heure déjà, et puis par ailleurs, dans votre communication, sur vos sites, dans des interviews de vous que j'ai lues, vous parlez beaucoup de l'aspect pédagogique du jardinage, de la terre. Qu'est-ce qu'on apprend ?
Alors déjà, on apprend comment pousser un légume, on apprend ensuite la patience, on apprend également...
C'est un autre rapport au temps parce qu'il faut attendre les saisons.
Les saisons, c'est pas le tout de suite dont on a l'habitude aujourd'hui. Et donc ça rentre aussi dans une philosophie un peu du slow qui est aujourd'hui de plus en plus mise en avant, que ce soit la slow food, que ce soit aussi le temps de prendre pour faire les choses. Effectivement, la nature prend du temps à pousser, s'entretient. Et c'est ça aussi qui est important, c'est qu'il y a tout un accompagnement qui se fait.
Vous travaillez avec des enfants, par exemple, pour leur montrer comment...
On travaille dans beaucoup d'écoles. On essaie de pousser le plus de projets dans ce sens-là. Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, les collectivités, les mairies ont envie en fait, de débitumer les cours d'école pour en faire des espaces plus îlots de fraîcheur et donc aussi permettre aux enfants d'avoir des accès à la terre, au jardin.
Parce qu'il y a cet effet, en fait, le bitume fait qu'on s'emmagasine la chaleur et ça fait qu'il fait plus chaud dans les villes.
Exactement.
Je crois qu'on augmente de 2 degrés l'été à cause de ça.
C'est dans ces chiffres-là, effectivement. Et donc,
je n'ai pas vérifié, mais je crois que c'est dans ces
chiffres-là. Il y a un vrai sujet là-dessus et aussi travailler avec les enfants permet aussi de leur inculquer des meilleures valeurs du bien manger.
Je vais employer une expression que je déteste. On ne va pas se mentir. Je sais, en général, quand les hommes politiques disent ça, on peut être sûr qu'ils vont mentir. Mais bon, on ne va pas se mentir. Il y a quand même une chose qu'il faut dire, c'est que travailler la terre, ce n'est pas facile. C'est quelque chose de dur. Comme je vous disais tout à l'heure, hors antenne, je crois, mes grands-parents ne s'appellent pas Raymond, mais Henri ou Jean. Et pour eux, le travail de la terre, ils ont toujours dit que c'est quelque chose de très dur. C'était quelque chose, ils étaient presque contents que leurs enfants, leurs petits-enfants y échappent.
Oui, c'est très dur. Alors après, ça dépend effectivement, encore une fois, l'objectif de pourquoi on travaille la terre. Travailler la terre pour se reconnecter à la nature. Aujourd'hui, on se rend compte que dans les villes, il y a des personnes qui n'ont jamais grandi à la nature. C'est-à-dire qu'il y a des générations qui n'ont jamais connu la campagne.
Qui, à mon avis, ne savent même pas où pousse une tomate.
Voilà, exactement. Et ces personnes-là, mine de rien, ça fait partie du propre de l'homme d'avoir accès à cette nature-là. Je vois des articles qui tournent sur les câlins, faire des câlins à des arbres. Moi, je me dis, bon... C'est intéressant d'en arriver à ce niveau-là, mais est-ce que c'est pas tout intéressant aussi d'avoir son potager, son balcon, faire pousser des tomates et donc travailler la terre, il y a différentes manières de travailler la terre et de là à en vivre et générer du coup effectivement des gains pour faire ça de sa vie, c'est un autre niveau aussi.
Avant qu'on se quitte, je voudrais absolument qu'on parle du projet de la Cité Universelle, un projet dans le cadre de Réinventer Paris, une opération initiée par la mairie de Paris, je crois, et que Marcy Raymond a gagné. Alors, qu'est-ce que vous allez faire dans le 19e arrondissement?
Alors là, c'est un projet effectivement dans le cadre de Réinventer Paris 2. C'est un projet d'ampleur. C'est le plus grand site de Réinventer Paris. C'est entre Pantin, Paris 19e et la mairie de Verviers. Exactement. C'est juste en face de la Philharmonie. Et on va faire tout un parcours agrothérapique, donc autour des sens. Cette cité universelle se veut être accessible pour les personnes en situation de handicap. On pense généralement au handicap physique, mais il y a aussi tout ce qui va être le handicap visuel, sensoriel et autres. Et donc nous, à travers ce parcours agrothérapique, on a envie de travailler autour des sens. C'est vrai que la nature génère ces choses-là, c'est-à-dire que on peut, à travers des odeurs, à travers du toucher, à travers de la vue, du visuel, essayer de créer un climat dans lequel on va mieux se sentir. Et il y a certaines études qui montrent que dans certains hôpitaux, avoir accès à la nature ou avoir accès à un potager permet de guérir plus rapidement et donc d'accompagner aussi des personnes, des patients.
Donc là, ça veut dire que ça va être un projet qui a pour but d'accompagner des gens en difficulté, en souffrance, pour les aider à aller mieux?
Alors oui, ça pourra en faire partie, mais aussi l'idée aussi déjà, c'est que ça soit des potagers qui soient accessibles à ces personnes-là. Donc on va travailler sur des notions de verticalité, on va travailler sur des modules qui permettront de jardiner, parce que effectivement, ça peut être tout simple, hein, mais jardiner dans la terre et même le sol, c'est pas possible pour tout le monde aujourd'hui.
Quel est l'espace de Paris que vous aimeriez demain rendre agricole? Je sais pas, le Champ de Mars. Est-ce qu'il y a, vous avez un rêve secret? Enfin, secret, non, sinon on ne le dirait pas. Est-ce que vous avez un endroit rêvé que vous aimeriez végétaliser?
Plutôt qu'un endroit, c'est des surfaces et c'est vrai que les rues, aujourd'hui, moi je pense que les rues, les trottoirs, on pourrait envisager que tous les matins, en allant au travail, chacun pourrait aller arroser les plantes qu'il y a dans la rue, parce que finalement on se rend compte qu'énormément de personnes font le même trajet tous les jours, il suffirait juste d'avoir un petit arrosoir et de contribuer à sa petite échelle à sa vie de quartier, et là pour le coup je trouverais ça très citoyen.
Vous pensez que ça arrivera un jour?
Je l'espère et j'ai toute conscience de penser qu'on pourra le faire, puisque si on veut une ville verte demain, c'est pas en attendant que la mairie de Paris ou les promoteurs, c'est pas eux qui le feront, c'est à tous de s'impliquer dans son quartier.
Hugo Meunier, vous êtes le fondateur de Merci Raymond, je vous remercie d'être venu aujourd'hui.
Merci beaucoup pour l'invitation.
Campus Paris. Voilà, vous venez d'écouter La Relève, c'était l'épisode 13 de la saison 3, mais comment va se terminer cette incroyable saga, on a hâte de le savoir. Merci Hugo Meunier d'être venu dans nos studios qui ne sont pas très végétaux. L'émission était toujours proposée et présentée par Christophe, réalisée par le nôtre à nous, Antonin. Vous pourrez retrouver l'émission sur notre page Facebook, La Relève, sur Radio Campus Paris, sur le site de Radio Campus Paris, rubrique La Relève. Prévoyez une petite quinzaine de jours entre la première diffusion et le podcast. Voilà, c'était très important de le dire. On se retrouve dans 15 jours et vous avez rendez-vous à 19h avec la matinale de Radio Campus. Merci.